Difficile de caser de la lecture dans votre emploi du temps? Avec l'appli Audible, c'est possible. Pendant votre trajet quotidien ou avant de vous endormir, plongez dans un livre audio avec Audible. Romans, polars, coaching ou jeunesse, écoutez-les sur votre smartphone. N'attendez plus. Téléchargez l'appli Audible, le premier livre audio est offert.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Premier épisode.
Nous étions à l'étude quand le proviseur entra, suivi d'un nouveau, habillé en bourgeois, et d'un garçon de classe qui portait un pupitre. Ceux qui dormaient se réveillèrent, et chacun se leva, comme surpris dans son travail.
Monsieur Roger, voici un élève que je vous recommande. Il entre en cinquième. Si son travail et sa conduite sont méritoires, il passera dans les grands. Ou l'appelle son âge.
Resté dans l'angle, derrière la porte, si bien qu'on l'apercevait à peine, le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus haut de taille qu'aucun de nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. On commença la récitation des leçons. Il les écouta de toutes ses oreilles, attentif comme au sermon, n'osant même croiser les cuisses, ni s'appuyer sur le coude. Et à 2 heures, quand la cloche sonna, le maître d'études fut obligé de l'avertir pour qu'il se mît avec nous dans les rangs. Nous avions l'habitude, en entrant en classe, de jeter nos casquettes par terre, afin d'avoir ensuite nos mains plus libres. Il fallait, dès le seuil de la porte, les lancer sous le banc de façon à frapper contre la muraille en faisant beaucoup de poussière. C'était là le genre. Mais soit qu'il n'eût pas remarqué cette manœuvre ou qu'il n'eût osé s'y soumettre, la prière était finie que le nouveau tenait encore sa casquette sur ses 2 genoux. C'était une de ces coiffures d'ordre composite où l'on retrouve les éléments du bonnet à poil, du chapska, du chapeau rond, de la casquette de loutre et du bonnet de coton. Une de ces pauvres choses enfin dont la laideur muette a des profondeurs d'expression comme le visage d'un imbécile. Ovoïde et renflée de baleines, elle commençait par 3 boudins circulaires, puis s'alternait, séparée par une bande rouge, des losanges de velours et de poils de lapin. Venait ensuite une façon de sac qui se terminait par un polygone cartonné, couvert d'une broderie en soutache compliquée, et d'où pendait, au bout d'un long cordon trop mince, un petit croisillon de fil d'or en manière de gland. Elle était neuve, la visière brillait.
Le nouveau, levez-vous. Débarrassez-vous de votre casque. Levez-vous et dites-moi votre nom.
Charles Bovary.
Répétez.
Charles Bovary.
Plus haut, plus haut.
Charles Bovary.
Silence. Silence. Comment écrivez-vous cela?
B-O-V-A-R-Y.
Bovary, Charles, bien. Pour aujourd'hui, asseyez-vous au pied de la chaire. Et que cherchez-vous?
Casquette.
Ça s'enverra toute la classe. Restez donc tranquille. Bon, quant à vous, le nouveau, vous me copierez 20 fois le verbe ridiculus sum. Vous la retrouverez, votre casquette, on ne vous l'a pas volée.
Tout reprit son calme. Les têtes se courbèrent sur les cartons et le nouveau resta pendant 2 heures dans une tenue exemplaire. Quoiqu'il y eût bien de temps à autre quelques boulettes de papier lancées d'un bec de plume qui vint s'éclabousser sur sa figure. Mais il s'essuyait avec la main et demeurait immobile, les yeux baissés. Le soir, à l'étude, il tira ses bouts de manche de son pupitre, mit en ordre ses petites affaires, régla soigneusement son papier. nous le vîmes qui travaillait en conscience, cherchant tous les mots dans le dictionnaire et se donnant beaucoup de mal. Grâce sans doute à cette bonne volonté dont il fit preuve, il dut de ne pas descendre dans la classe inférieure. À force de s'appliquer, il se maintint toujours vers le milieu de la classe. Une fois même, il gagna un premier accès-site d'histoire naturelle. Mais à la fin de sa troisième, ses parents le retirèrent du collège pour lui faire étudier la médecine à Rouen.
Cours d'anatomie, cours de pathologie, cours de physiologie, cours de pharmacie, cours de chimie et de botanique et de clinique et de thérapeutique. Sans compter l'hygiène ni la matière médicale.
Il n'y comprit rien. Il avait beau écouter, il ne saisissait pas. Il travaillait pourtant. Il avait des cahiers reliés. Il suivait tous les cours. Il ne perdait pas une seule visite. Il accomplissait sa petite tâche quotidienne à la manière du cheval de manège qui tourne en place les yeux bandés, ignorant de la besogne qu'il broie. Il maigrit. Sa taille s'allongea. Et sa figure prit une sorte d'expression dolente qui la rendit presque intéressante. Naturellement, par nonchalance, il en vint à se délier de toutes les résolutions qu'il s'était faites. Une fois, il manqua la visite, le lendemain son cours, et savourant la paresse, peu à peu, n'y retourna plus. Il prit l'habitude du cabaret avec la passion des dominos. S'enfermer chaque soir dans un sale appartement public pour y taper sur des tables de marbre de petits os de mouton marqués de points noirs lui semblait un acte précieux de sa liberté qui le rehaussait d'estime vis-à-vis de lui-même. C'était comme l'initiation au monde, l'accès des plaisirs défendus. Alors beaucoup de choses comprimées en lui se dilatèrent. Il apprit par cœur des couplets qu'il chantait aux bienvenus, s'enthousiasma pour Béranger, sut faire du punch et connut enfin l'amour. Grâce à ses travaux préparatoires, il échoua complètement à son examen d'officier de santé.
Pour cette fois, Charles, tu es excusé. Tu vas recommencer et réussir.
Oui, mère, merci.
Charles se remit donc au travail et prépara sans discontinuer les matières de son examen dont il apprit d'avance toutes les questions par cœur. Il fut reçu avec une assez bonne note. Quel beau jour pour sa mère.
Tu vas aller exercer à tôt, Charles. Le médecin n'est pas encore mort, mais il va bientôt cesser son activité. Tu t'installes en face, tu seras son successeur.
Bien, mère.
Et je t'ai trouvé une femme, Madame Héloïse Dubuc, la veuve d'un huissier de Dieppe. Elle a 45 ans et 1200 livres de rente. Ça n'a pas été facile. J'ai dû jouer les coudes pour évincer les autres prétendants, mais tout est arrangé.
Charles avait entrevu dans le mariage l'avènement d'une condition meilleure, imaginant qu'il serait plus libre et pourrait disposer de sa personne et de son argent. Mais sa femme fut le maître. Il devait, devant le monde, dire ceci, ne pas dire cela, faire maigre tous les vendredis, s'habiller comme elle l'entendait, harceler par son ordre les clients qui ne payaient pas. Le soir, quand Charles rentrait, Héloïse sortait de dessous les draps ses longs bras maigres, les lui passait autour du cou et se mettait à lui parler de ses chagrins. Il l'oubliait, il en aimait une autre, on lui avait bien dit qu'elle serait malheureuse. Et elle finissait en lui demandant quelques sirops pour sa santé et un peu plus d'amour.
Oh, Charles, avec toi. Mmh.
Entrez.
Cet homme a une lettre, monsieur. Une urgence.
C'est mon maître, monsieur Rouault, à la ferme des Berthaud. Il s'est cassé la jambe.
Oh, Charles, il y a si bonne nuit de traverse et il fait encore nuit noire.
Prenez les devants. Je partirai dans 3 heures au lever de la lune.
Bien, j'enverrai un gamin vous attendre. À tout à l'heure.
Vers 4 heures du matin, Charles, bien enveloppé dans son manteau, se mit en route pour les Berthaud. Encore endormi par la chaleur du sommeil, il se laissait bercer au trot pacifique de sa bête. Quand elle s'arrêtait d'elle-même, Charles, se réveillant en sursaut, se rappelait vite la jambe cassée et il tâchait de se remettre en mémoire toutes les fractures qu'il savait. Puis, son esprit se fatiguant et le sommeil revenant de soi-même, Bientôt, il entrait dans une sorte d'assoupissement où ses sensations récentes se confondant avec des souvenirs, lui-même se percevait double. À la fois étudiant et marié. Couché dans son lit comme tout à l'heure, traversant une salle d'opéré comme autrefois. L'odeur chaude des cataplasmes se mêlait dans sa tête à la verte odeur de la rosée. Il entendait rouler sur leurs tringles les anneaux de fer des lits et sa femme dormir.
Avez-vous le médecin ?
Je suis l'officier de santé.
Suivez-moi.
Savez-vous comment Monsieur Roux s'est cassé la jambe ?
C'est arrivé hier soir, en revenant de faire les rois chez un voisin.
Était-il seul ?
Oui, sa femme est morte il y a 2 ans maintenant. Il n'est avec lui que sa demoiselle, qui l'aide à tenir sa maison. Regardez, les Berthaud. On arrive, monsieur.
Une jeune femme, en robe de mérinos bleu garnie de 3 volants, vint sur le seuil de la maison pour recevoir Monsieur Bovary. Charles monta au premier voir le malade. La fracture était simple, sans complications d'aucune espèce. Il n'eût osé en souhaiter de plus facile.
Il va falloir immobiliser votre jambe pendant quelques semaines, monsieur. Je vous fais une attelle. Il faudrait des coussinets.
Bien sûr.
Je vais prendre ce drap-là.
Allez, Emma, du fil à une aiguille.
Voilà, mademoiselle, les bandes assemblées.
Charles fut surpris de la blancheur de ses ongles. Ils étaient brillants, fins du bout, plus nettoyés que les ivoires de Dieppe et taillés en amande. Sa main pourtant n'était pas belle, point assez pâle peut-être, et un peu sèche aux phalanges. Elle était trop longue aussi, et sans molles inflexions de lignes sur les contours. Ce qu'elle avait de beau, c'était les yeux. Quoiqu'ils fussent bruns, ils semblaient noirs à cause des cils, et son regard arrivait franchement à vous avec une hardiesse candide.
Merci, mademoiselle. Pas trop serré quand même. Voilà.
Merci, monsieur Bovary. Merci.
Quand Charles, après avoir fait ses adieux au père Rouault, rentra dans la salle, il trouva mademoiselle Rouault debout, le front contre la fenêtre, et qui regardait dans le jardin où les échalas des haricots avaient été renversés par le vent.
Cherchez-vous quelque chose ?
Ma cravache, s'il vous plaît.
Là, derrière les sacs.
Charles, par galanterie, se précipita et comme il allongeait aussi son bras dans le même mouvement, il sentit sa poitrine effleurer le dos de la jeune fille courbée sous lui. Elle se redressa, toute rouge, et le regarda par-dessus l'épaule en lui tendant son air de bœuf. Au lieu de revenir au Berthaud 3 jours après, comme il l'avait promis, c'est le lendemain même qu'il y retourna. Puis 2 fois la semaine, régulièrement, sans compter les visites inattendues qu'il faisait de temps à autre, comme par mégarde. Tout, du reste, alla bien. La guérison s'établit selon les règles, et quand, au bout de 46 jours, on vit le père Rouault qui s'essayait à marcher seul dans sa masure, on commença à considérer M. Bovary comme un homme de grande capacité. Dans les premiers temps, Madame Bovary jeune ne manquait pas de s'informer du malade. Et même sur le livre qu'elle tenait en partie double, elle avait choisi pour Monsieur Rouault une belle page blanche. Mais quand elle sut qu'il avait une fille, elle alla aux informations.
Une fille qui a été élevée chez les Ursulines et qui sait en conséquence la danse, la géographie, le dessin, faire la tapisserie et toucher du piano. C'est donc pour cela que tu as la figure si épanouie quand tu vas la voir.
C'est pour elle que tu mets ton gilet neuf? Ah, cette femme! Cette femme!
Il arriva qu'au commencement du printemps, un notaire d'Ingouville, détenteur de fonds à la veuve Dubuc, s'embarqua par une belle marée, emportant avec lui tout l'argent de son étude. Héloïse, il est vrai, possédait encore, outre une part de bateau évaluée 6000 francs, sa maison de la rue Saint-François. Et cependant, de toute cette fortune que l'on avait fait sonner si haut, rien, si ce n'est un peu de mobilier et quelques nippes, n'avait paru dans le ménage. Il fallut tirer la chose au clair. La maison de Dieppe se trouva vermoulue d'hypothèques jusque dans ses pilotis. Ce qu'elle avait mis chez le notaire, Dieu seul le savait. Et la part de barque n'excéda point 1000 écus. Elle avait donc menti, la bonne dame. Monsieur et Madame Bovary vinrent à Tôte. On s'expliqua. Il y eut des scènes. Héloïse en pleurs, se jetant dans les bras de son mari, le conjura de la défendre de ses parents. Charles voulut parler pour elle. Ses parents se choquèrent et ils partirent. Mais le coup était porté. 8 jours après, comme elle étendait du linge dans sa cour, elle fut prise d'un crachement de sang. Et le lendemain, tandis que Charles avait le dos tourné pour fermer le rideau de la fenêtre, elle dit « Ah mon Dieu !» poussa un soupir et s'évanouit. Elle était morte. Quel étonnement! Quand tout fut fini au cimetière, Charles rentra chez lui. Il ne trouva personne en bas. Il monta au premier, dans la chambre, vit sa robe encore accrochée au pied de l'alcôve. Alors, s'appuyant contre le secrétaire, il resta jusqu'au soir, perdu dans une rêverie douloureuse. Elle l'avait aimé, après tout.
Tenez, 15 francs. Et je vous ai apporté une dinde pour vous remercier. Ma jambe est parfaitement remise.
Merci, monsieur Roux.
J'ai appris pour votre femme, vous savez. Je sais ce que c'est. J'ai été comme vous, moi aussi. Mais puisque c'est notre sort à tous, on ne doit pas non plus se laisser dépérir. Et parce que d'autres sont morts, vouloir mourir. Faut vous secouer, monsieur Bovary. Venez nous voir. Ma fille pense à vous de temps à autre, savez-vous bien. Et elle dit comme ça que vous l'oubliez.
Charles suivit son conseil. Il retourna au Berthaud. Il retrouva tout comme la veille, comme il y avait 5 mois, c'est-à-dire. Il se surprit à rire, mais le souvenir de sa femme lui revenant tout à coup l'assombrit. On apporta le café, il n'y pensa plus. Il y pensa moins à mesure qu'il s'habituait à vivre seul. L'agrément nouveau de l'indépendance lui rendit bientôt la solitude plus supportable. Il pouvait changer maintenant les heures des repas, rentrer ou sortir sans donner de raison, et lorsqu'il était bien fatigué, s'étendre de ses 4 membres tout en large dans son lit. Donc, il se choya, se dorlota et accepta les consolations qu'on lui donnait. D'autre part, la mort de sa femme ne l'avait pas mal servi dans son métier, car on avait répété durant 1 mois « Ce pauvre jeune homme, quel malheur !» Son nom s'était répandu, sa clientèle s'était accrue. Et puis il allait au Berthaud tout à son aise. Il avait un espoir sans but, un bonheur vague. Il se trouvait la figure plus agréable en brossant ses favoris devant son miroir.
Bonjour.
Oh, mademoiselle Image, je ne vous avais pas vue. Bonjour.
Voulez-vous boire quelque chose?
Je ne veux pas vous déranger.
Vous prendrez bien un verre de liqueur avec moi?
Si cela vous fait plaisir.
Tenez. À la vôtre.
À la vôtre, mademoiselle Emma.
Elle se plaignit d'éprouver, depuis le commencement de la saison, des étourdissements. Elle demanda si les bains de mer lui seraient utiles. Elle se mit à causer du couvent, Charles de son collège, les phrases leur vinrent. Ils montèrent dans sa chambre. Elle lui fit voir ses anciens cahiers de musique, les petits livres qu'on lui avait donnés en prix et les couronnes en feuilles de chêne abandonnées dans un bas d'armoire. Elle lui parla encore de sa mère, du cimetière, et même lui montra dans le jardin la plate-bande dont elle cueillait les fleurs.
« J'en cueille tous les premiers vendredis de chaque mois pour les aller mettre sur sa tombe. Mais le jardinier n'y entend rien, on est si mal servi. Comme j'aimerais, ne fût-ce au moins que pendant l'hiver habiter la ville. Ou alors l'été, quand les jours se rallongent. Ce que la campagne est ennuyeuse. »
Le soir, en s'en retournant, Charles reprit une à une les phrases qu'elle avait dites, tâchant de se les rappeler, d'en compléter le sens, afin de se faire la portion d'existence qu'elle avait vécue dans le temps qu'il ne la connaissait pas encore. Puis il se demanda ce qu'elle deviendrait, si elle se marierait, et à qui. Hélas, le père Rouault était bien riche, et elle, si belle. Mais la figure d'Emma revenait toujours se placer devant ses yeux, et quelque chose de monotone, comme le ronflement d'une toupie bourdonnant à ses oreilles, « Si tu te mariais, pourtant, si tu te mariais. » Pensant qu'après tout, l'on ne risquait rien, Charles se promit de faire la demande quand l'occasion s'en offrirait. Mais chaque fois qu'elle s'offrit, la peur de ne point trouver les mots convenables lui collait les lèvres. À l'époque de la Saint-Michel, Charles était venu passer 3 jours au Berthaud. La dernière journée s'était écoulée comme les précédentes, à reculer, de quart d'heure en quart d'heure. Le père Rouault lui fit la conduite. Il marchait dans un chemin creux, il s'allait quitter, c'était le moment. Charles se donna jusqu'au coin de la haie.
Maître Rouault, je voudrais vous demander quelque chose.
Contez-moi votre histoire. Est-ce que je sais pas tout?
Père Rouault...
Moi, je demande pas mieux. Quoique sans doute la petite soit de mon idée, il faut pourtant lui demander son avis. Allez-vous-en donc. Je m'en vais retourner chez nous. Si c'est oui, entendez-moi bien, vous aurez pas besoin de revenir. À cause du monde. Et d'ailleurs, ça la saisirait trop. Mais pour que vous ne vous mangiez pas le sang, je pousserai tout grand au vent de la fenêtre contre le mur. Vous pourrez voir par derrière, en vous penchant par la haie.
Le père Rouault s'éloigna. Charles attacha son cheval à un arbre. Il courut se mettre dans le sentier. Il attendit. Une demi-heure se passa, puis il compta 19 minutes à sa montre.
Elle a dit oui.
Madame Bovary de Gustave Flaubert. Adaptation Pauline Timonier. Premier épisode avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Jean-Charles Dizazzo, Claude Bernard Perrault, Myriam Azinko, Pascal Kamerbeck, Myrène Astré, Guillaume Burstin, Pauline Ziadé, Claire Latreille, Jean-Michel Mollet, Peggy Martineau.
Musique originale et piano, Mathieu Lambollet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse.
Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Prise de son, montage, mixage, Claude Niort, Manuel Couturier, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff.
Remerciements à Jacques et Véronique Verlet pour leur accueil amical.